Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
8h22, bonjour Jean-Yves Le Borgne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn. On a beaucoup commenté les conditions de détention de votre client. Ma première question sera très simple. Comment va-t-il ?
Écoutez, je n'ai pas eu de contact direct et personnel avec lui. Je sais que ses conditions de détention se sont améliorées puisqu'on est passé d'une garde à vue que je qualifierais d'un mot peut-être un peu faible de rustique à une détention dans des conditions matérielles normales. La vraie question, c'est que fait Carlos Ghosn en détention ? Même si les conditions se sont améliorées.
Je vais y revenir, mais vous nous dites que les conditions dans lesquelles il est détenu actuellement au Japon se sont améliorées.
Se sont améliorées en ce sens que il était dans des conditions tout à fait élémentaires en garde à vue et qu'il semble qu'il soit désormais dans une cellule normale. Mais il est néanmoins dans une cellule et dans une prison.
Mais ça veut dire quoi dans une cellule normale ? Enfin, excusez-moi.
Cellule avec un lit où on peut dormir normalement. Où on n'est pas obligé de dormir sur le dos, sur un tatami. Vous voyez, c'est quand même des conditions qui ont duré longtemps oui. Et qui sont des conditions extrêmement difficiles.
Trop longtemps, selon vous ?
Écoutez, je ne voudrais pas à ce stade me lancer dans une appréciation des modalités de la justice japonaise. Chaque pays a son système, a son mode de fonctionnement, mais il est évident qu'au regard d'un Français, des gardes à vue de 20 jours et plus sont des phénomènes assez extraordinaires. Je choisis à dessein un mot plein de neutralité.
J'ai compris que vous ne voulez pas froisser la justice japonaise. Je rappelle que Carlos Ghosn fait l'objet de 3 inculpations pour abus de confiance et minoration de revenus aux autorités boursières entre 2010 et 2018. Quel est votre commentaire sur ces motifs d'inculpation ?
Bah écoutez, d'abord, on a commencé par parler de fraude fiscale, de non-déclaration. Déclaration de revenus, ça a été les premiers mots, les premiers éléments qui sont venus jusqu'à nous, ça c'était le début. Puis quelques temps après, on nous a dit, ah ben non, c'est pas vraiment de la fraude fiscale, parce que l'argent dont on parle, il ne l'a pas touché. Il devrait le percevoir dans quelques années quand il partirait en retraite. Alors, la réaction, bien sûr, qu'on a dans une situation de ce genre, de quoi parle-t-on ? On parle d'une non-déclaration de ces versements virtuels hypothétique à ce qui serait l'autorité des marchés boursiers japonais. Et que ce faisant, on aurait modifié l'image de l'entreprise en ne disant pas qu'elle avait une dette. Dette hypothétique au demeurant. Au regard d'un juriste français, la chose paraît rocambolesque.
Visiblement, ça n'est pas le cas pour la justice japonaise. Et hier, votre client est repassé à l'offensive. Il dénonce un complot destiné à empêcher son projet d'intégration de l'alliance Renault-Nissan. Ça veut dire quoi ?
Écoutez, je suis comme vous dans l'analyse de son propos. Je crois qu'il considère que cette trahison, ce complot, aurait pour origine certaines personnes qui auraient été en désaccord avec sa propre politique, c'est-à-dire l'idée d'intégrer de manière plus forte les entreprises diverses de constructeurs automobiles, c'est-à-dire Nissan, Mitsubishi et Renault.
Mais comment l'argumente-t-il ? Il dit finalement qu'il y a une cabale contre ma capacité à mener ce groupe aujourd'hui et dans les conditions où je l'ai fait ?
Ben, vous avez comme
c'est
moi...
C'est un retournement d'alliance pour dire des choses très simplement.
Vous avez comme moi lu ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il projetait quelque chose qui n'aurait peut-être pas été très éloigné d'une fusion des divers constructeurs sous la direction d'une holding qui aurait eu un droit de direction des oui. Trois constructeurs. Et il semble bien qu'un certain nombre de personnes aient été farouchement opposées à ce rapprochement, qui était plus qu'un rapprochement, puisqu'on fusionnait les sociétés.
Tellement et que... opposé qu'on le retrouve aujourd'hui en prison.
Vous ben, écoutez, on a sorti de l'histoire de Carlos Ghosn dans sa conduite des grandes entreprises automobiles, un certain nombre d'éléments qui, curieusement, ont 8 ans, 5 ans, 10 ans parfois. Et il dit, il a raison de dire, mais on le savait depuis toujours. Pourquoi sortons ça maintenant ?
Alors, en ce qui concerne l'abus de confiance, vous venez de le rappeler, sa défense est de dire Nissan savait. Et donc Nissan a laissé faire ?
Mais je pense que Nissan a laissé faire parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas laisser faire. Et aujourd'hui, tout à coup, on traduit dans des termes fautifs ce qui était parfaitement connu et qui ne méritait pas qu'on s'y oppose.
Ce qui était la norme dans le fonctionnement de l'entreprise est devenu du jour au lendemain quelque chose d'anormal et pour lequel il se retrouve aujourd'hui en prison.
Ben, c'est tout à fait la situation. Je pense que ceux qui ont mené cette cabale contre lui, et encore une fois, il vise certaines personnes dont il ne donne pas d'ailleurs l'identité
non.
encore, mais peut-être
il
la
le fera.
Peut-être
vous l'incitez
fera.
À le faire, vous, son conseil ?
Je pense qu'il devrait le dire. Et que cette dénonciation, qui est une manière au fond de se débarrasser de lui, a déjà atteint son but. Parce qu'il n'est plus, dès le lendemain de son incarcération, il n'était plus président de Nissan, il n'est désormais plus président de Renault, je dirais, il n'est d'ailleurs plus rien dans toute cette organisation de construction automobile, ce qui au demeurant peut-être devrait amener à une vision un peu différente de l'utilité, si j'ose utiliser ce mot, de son incarcération. Il ne peut plus rien faire, d'ailleurs pouvait-il faire quoi que ce soit dès le début, les choses qu'on lui reproche sont inscrites dans l'histoire des sociétés, oui. Il suffit d'aller y lire pour voir que rien n'est reprochable.
Une libération sous caution est-elle encore envisageable, est-elle encore possible ?
Mais écoutez, j'ose l'espérer, car si elle n'était plus possible, on serait dans une situation éminemment regrettable. Attendons que la justice japonaise, dans sa sagesse, perçoivent l'inanité des reproches qui sont faits à Carlos Ghosn et en tout cas l'insuffisance de leur importance pour le conserver en détention.
Alors, il y a deux questions qui relèvent de sa défense. A-t-il vraiment les moyens de se défendre dans le système judiciaire japonais tel que nous le découvrons, en tout cas pour beaucoup d'entre nous ?
Écoutez, je ne veux pas juger le système judiciaire japonais, même s'il est très différent du nôtre, même si au regard de ce qu'on peut appeler les droits de l'homme et les libertés individuelles, il peut y avoir des interrogations pour un occidental. Ce que je veux dire...
Vous dialoguez avec ces avocats japonais ?
Écoutez, c'est difficile.
Et pardonnez-moi de cette question délicate, mais sont-ils compétents ? Pensez-vous qu'il est bien défendu là-bas ?
Écoutez, nous le pensons. Pensons, oui, il est toujours difficile.
Vous le pensez ou vous l'espérez ?
Les deux. Vous savez, c'est toujours extrêmement difficile de pénétrer un système complètement différent de celui auquel on est accoutumé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème concernant Carlos Ghosn et l'image qui est la sienne. Mm-hmm. C'est un homme hors norme. Et quand je dis que c'est un homme hors norme, je parle de la France. Je parle du regard de nos compatriotes sur sa situation, sur ses revenus qui sont évidemment extraordinaires, parce qu'il avait une position, un rôle, un devoir extraordinaire. Ce n'est pas une raison pour qu'il soit traité d'une manière qui soit inférieure en termes de respect des droits individuels.
Est-ce que vous comprenez, même si ces indemnités, par exemple, de départ de Renault étaient tout à fait officielles et légales, qu'une somme de 30 millions puisse choquer ?
Je comprends qu'une somme importante allant à un grand dirigeant puisse choquer une opinion faite de personnes dont le salaire moyen est infiniment plus faible. Mais je dirais que selon qu'on soit puissant ou misérable, il n'y a pas de raison que la justice soit différente. Et là, curieusement, on inverse la formule. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un puissant, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un privilégié qu'il faut qu'il soit traité plus mal qu'un autre.
Vous avez des lettres, vous allez pouvoir le rencontrer ?
Je pense que maintenant, la rencontre va être possible.
Dans quel délai ?
Écoutez, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais je pense dans un délai relativement rapide.
A-t-il pu enfin rencontrer sa famille ?
À ma connaissance, non. Je pense que la chose est possible. Vous imaginez quel est le tsunami qui touche une famille dans une situation de ce genre, quel est le choc psychologique et la souffrance de cette famille. Je crois que, bien sûr, maintenant que la situation matérielle et juridique a un peu évolué, la visite va être possible. Mais disons-le, la seule solution, c'est qu'il soit libéré, fût-ce au prix d'ailleurs d'un engagement qu'il a pris de demeurer au Japon et que sa famille aille le voir dans des conditions là-bas normales.
Merci beaucoup Jean-Yves Le Bon. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn et que vous vous exprimiez pour la première fois. Bonne journée à vous.
Merci.